Chapitre 28. C'est rue Mautrec que se rendait Jacques de Boiscourant. Mais il savait de quelle réprobation effroyable il était l'objet. À prendre le chemin le plus court, à traverser les rues fréquentées, il eût risqué d'être reconnu et peut-être arrêté. Il s'était donc résigné à un long détour et il s'était engouffré dans le dédale des ruelles sombres et tortueuses de la vieille ville. Il s'en allait d'un pied fiévreux, se détournant des rares passants, son chapeau de feutre rabattu sur les yeux, et pour plus de sûreté encore, tenant son mouchoir appliqué contre sa figure. Il était bien près de 9h30 lorsqu'il arriva à la maison qu'habitaient le comte et la comtesse de Claudieuse. Le portillon était enlevé et la porte fermée. N'importe, Jacques avait son plan, il sonna. Une bonne qui ne le connaissait pas vint ouvrir. « Madame la comtesse de Claudieuse, » demanda-t-il. « Madame ne peut recevoir personne, » répondit cette fille. « Madame est près de monsieur qui est au plus mal ce soir. » « Il faut pourtant que je lui parle. »« Impossible. » « Allez lui dire qu'un monsieur, qui est envoyé par le juge d'instruction, désire l'entretenir un instant. C'est pour l'affaire Boiscourant. »«
Que ne le disiez-vous tout de suite ?» fit la servante. « Venez !»
Et dans sa précipitation, oubliant de refermer la porte, elle précéda Jacques à travers le jardin. Une fois dans le vestibule, ouvrant le salon,
« Que monsieur entre, dit-elle, et s'assoie pendant que je monte prévenir madame. »
Et, ayant allumé les bougies d'un des candélabres de la cheminée, elle s'éloigna. Tout, jusqu'à ce moment, marchait au gré de Jacques, et mieux même qu'il n'eût osé le souhaiter. Restait à empêcher la comtesse de se retirer en l'apercevant et de lui échapper. Très heureusement, la porte du salon s'ouvrait en dedans. Il alla se poster derrière le battant resté ouvert, et attendit. Depuis 24 heures qu'il se préparait à cette entrevue, il avait arrangé dans sa tête ce qu'il aurait à dire. Mais voici qu'au dernier moment, de même que les feuilles mortes au souffle de la tempête, toutes ses idées s'éparpillaient. Son cœur battait avec une telle violence qu'il lui semblait remplir du bruit de ses battements ce grand salon délabré. Il se croyait de sang-froid pourtant, et de fait, il avait cette lucidité particulière qui donne à certains actes des fous une apparence de logique. Il commençait à s'étonner d'attendre si longtemps quand, enfin, des pas légers et le frôlement d'une robe lui annoncèrent Madame de Claudieuse. Elle entra, vêtue d'un long peignoir de couleur sombre, et fit quelques pas dans le salon, étonnée de n'apercevoir pas celui qui la demandait. C'est bien ce qu'avait prévu Jacques. Violemment, il repoussa le battant de la porte et, se dressant devant, « À nous deux » fit-il. Se retournant au bruit, « Jacques !» s'écria la comtesse. Et, terrifiée comme d'une apparition, elle regardait autour d'elle, cherchant une issue. Une des portes-fenêtres du salon était demeurée entrebâillée et elle allait s'y précipiter. Jacques s'avança. « N'essayez pas de m'échapper » prononça-t-il. « Car je vous le jure, je vous poursuivrai jusque dans la chambre de votre mari, jusqu'au pied de son lit. » Elle le regardait comme si elle n'eût pas compris. « Vous ? » balbutia-t-elle. « Ici ? » ?»« Oui, » répondit-il, « moi. Cela vous étonne, n'est-ce pas ? Vous vous disiez, il est prisonnier, bien gardé par les verrous et par les geôliers, je puis dormir tranquille. Pas de preuves, il ne parlera pas. » « J'ai commis le crime et c'est lui qui sera condamné. Coupable, je suis sauvé. Innocent, il est perdu. Vous pensiez que tout était dit ? Eh bien non, me voici. » L'expression d'une indicible horreur contractait les traits si beaux de la comtesse.
« C'est monstrueux, » fit-elle.
« Monstrueux, en effet.
Assassin, incendiaire !»
Il éclata de rire, d'un rire strident, convulsif, terrible.
« C'est vous, dit-il, qui m'appelez ainsi ?»
En un suprême effort, Madame de Claudieuse rassemblait toute son énergie.
« Oui, répondit-elle, oui. À moi, vous ne pouvez pas nier le crime. Je sais, moi, les mobiles que les juges ignorent. Croyant que j'allais exécuter mes menaces, vous avez eu peur. Lorsque je vous ai quitté en courant, vous vous êtes dit « C'est fini, elle va tout révéler à son mari. » Et alors, vous avez allumé l'incendie pour attirer mon mari dehors, incendiaire, et vous avez fait feu sur lui, assassin. « Et voilà ce que vous avez trouvé, » interrompit-il. « À qui espérez-vous faire croire à cette explication absurde ? Nos lettres étaient brûlées, et de même que vous niez avoir été ma maîtresse, je pouvais nier avoir jamais été votre amant. Et d'ailleurs, est-ce moi qu'un scandale eût atteint ? Vous savez bien que non. Vous n'ignorez pas que la même chose qui déshonore une femme décore un homme d'un lustre nouveau. Telles sont nos mœurs. » Et quant à redouter M. de Clodieuse, on me connaît assez pour savoir que je ne crains personne. Au temps où nous cachions nos amours au fond de la rue des Vignes, oui, je pouvais avoir peur de votre mari venant nous surprendre le coude d'une main, un revolver de l'autre, fort de cette loi sauvage et stupide qui fait du mari le juge de sa propre cause et l'exécuteur du jugement qu'il prononce. Hors de là, hors ce cas de flagrant délit qui permet à un homme de tuer comme un chien un autre homme qui ne peut ou ne veut pas se défendre, que m'importait le comte de Clodieuse ? Que m'importaient vos menaces à vous et sa haine à lui ? C'est froidement qu'il s'exprimait ainsi, d'un accent âpre et tranchant comme un glaive, et avec cette certitude qui pénètre, qui s'enfonce dans l'esprit. La comtesse chancelait.
Est-ce imaginable ? Bégayait-elle. Est-ce possible ?
Puis, tout à coup, redressant le front.
Mais je deviens folle, reprit-elle. Si vous étiez innocent, qui donc serait le coupable ?
D'un mouvement frénétique, Jacques lui saisit les poignets et les serrant à les meurtrir, et se penchant vers elle, si près qu'elle sentit son souffle comme une flamme sur son visage.
Toi, exécrable créature, dit-il, toi !
Et la repoussant avec une si furieuse violence qu'elle tomba sur un fauteuil.
« Toi, poursuivit-il, qui voulais être veuve pour m'empêcher de briser ma chaîne, à notre dernier rendez-vous, te croyant écrasée de douleur et bouleversée par tes larmes hypocrites, n'ai-je pas eu l'indigne faiblesse, la stupide lâcheté, de te dire que si j'épousais Denise, c'était uniquement parce que tu n'étais pas libre. Alors, ne t'es-tu pas écrié ? Oh mon Dieu ! Heureusement, cette épouvantable idée ne m'est pas venue plus tôt. De quelle idée s'agissait-il, Geneviève ? Allons, réponds, et avoue qu'elle venait trop tôt encore, puisque tu l'as mise à exécution. » Et répétant d'un ton d'écrasante ironie la phrase que venait de prononcer Madame de Clodieuse, « Qui donc serait le coupable ? Ajouta-t-il, si vous étiez innocente. » Hors de soi, elle bondit de son fauteuil et, plongeant dans les yeux de Jacques, un de ses regards qui fouille jusqu'aux plus sombres profondeurs de l'âme.
« Est-il bien possible, demanda-t-elle, que vous n'ayez pas commis le crime affreux ?» Il haussa les épaules.
« Mais alors, insista-t-elle haletante, c'est donc vrai, c'est donc réel, vous croyez que c'est moi qui l'ai commis ?»«
Peut-être l'avez-vous seulement commandé. » D'un geste délirant, elle leva au ciel ses mains jointes et d'une voix déchirante,
« Oh mon Dieu ! » s'écria-t-elle, « il le croit sincèrement !»
Un grand silence suivit, sinistre, formidable, tel que celui qui succède au fracas de la foudre. Debout, en face l'un de l'autre, Jacques et la comtesse de Clodieuse s'examinaient éperdument, comprenant que l'heure suprême de leur destinée sonnait. En chacun d'eux éclatait, fulgurante, la conviction de l'innocence de l'autre. Pas besoin d'explication. Ils avaient été abusés par les apparences et ils le reconnaissaient, ils en étaient sûrs. Et tel était pour eux l'effarement de cette découverte que l'idée ne leur venait pas de rechercher quel pouvait être le coupable.
« Que faire ? » interrogea enfin la comtesse.
« Dire la vérité, » répondit Jacques.
« Quelle ? »
Que j'étais votre amant, que si je suis allé au Valpinçon, c'est que vous m'y aviez donné rendez-vous, que si on a retrouvé l'enveloppe d'une de mes cartouches, c'est que je l'avais brûlée pour obtenir du feu, que si j'avais les mains noircies, c'est que j'avais émietté, pour les éparpiller au vent, les débris carbonisés de nos lettres.
« Jamais ! » s'écria la comtesse.
Des flots de sang empourpraient le visage de Jacques et d'un accent d'impitoyable énergie, « Ce sera cependant, prononça-t-il. Je le veux, il le faut. »
Madame de Clodieuse se tordait les bras.
« Jamais, répéta-t-elle, jamais !»
Et avec une précipitation convulsive,
« Ne comprends-tu donc pas, poursuivit-elle, que la vérité est impossible à dire ? Ce n'est pas à notre innocence qu'on croirait, mais à notre complicité. N'importe, je ne veux pas périr.
Dites que vous ne voulez pas périr seul.
Soit. Tout avoué ne serait pas vous sauver, mais ce serait me perdre sûrement. Est-ce là ce que vous exigez ? Quand il y aura deux victimes au lieu d'une, votre sort vous paraîtra-t-il moins cruel ?
Il l'arrêta d'un geste menaçant.
« Toujours la même, s'écria-t-il. Je sombre, je me noie, et elle réfléchit, elle calcule, elle se marchande. Et elle disait m'aimer. »
« Jacques !» interrompit Madame de Clodieuse. Et se rapprochant de lui,
« Ah, je calcule, fit-elle. Ah, je réfléchis. Eh bien, écoute. Oui, c'est vrai, je tenais à mon intacte renommée d'honnête femme, mille fois plus qu'à la vie, mais au-dessus de ma vie et de ma renommée, il y a toi.
Tu sombres, dis-tu.
Eh bien, partons. Un mot de tes lèvres et j'abandonne tout, honneur, pays, famille, mon mari, mes enfants. Parle et je te suis sans détourner la tête, sans un regret, sans un remords. »
De grands frissons lui couraient par tout le corps, sa poitrine haletée, ses yeux étincelés d'un insupportable éclat. Dans l'emportement de ses gestes, son peignoir, attaché à la hâte, se dénouait, et sur son sein et sur ses épaules, qui avaient les blancheurs éblouissantes du marbre, ses cheveux déroulés retombaient en masse fauve. Et d'une voix frémissante de passion contenue, douce et molle comme une caresse ou sonore comme un cuivre,
« Qui nous retient ? » poursuivait-elle. « Puisque tu as su sortir de prison, le plus difficile est fait. » Je songeais d'abord à emmener notre fille, ta fille, Jacques. Mais elle est bien malade, et d'ailleurs, un enfant nous trahirait. Seul, on ne nous rejoindra jamais. Ce n'est pas l'argent qui nous manquera, n'est-ce pas ? Nous nous envolerons vers ces contrées lointaines, dont on voit les descriptions féeriques dans les livres de voyage. Là, inconnus de tous, oubliés, ignorés, notre vie ne sera plus qu'un long enchantement.
Tu ne diras plus alors que je me marchande. Je serai bien à toi, tout et uniquement à toi, corps et âme, ta femme, ta maîtresse, ton ami, ton esclave. » Elle renversait la tête en arrière et les paupières mi-closes, avançant les lèvres avec des inflexions énervantes.
« Dis, insista-t-elle, veux-tu, Jacques ?»
Il l'écarta d'un geste farouche. Ce lui semblait un sacrilège qu'elle osa, de même que Denise, lui proposer de fuir.
« Plutôt le bagne » s'écria-t-il.
Elle blêmit, un spasme de rage convulsa ses traits, et se reculant, roide et tout d'une pièce,
« Que voulez-vous donc ? » interrogea-t-elle.
« Que vous m'aidiez à me sauver, » répondit-il.
« Quitte à me perdre moi-même ? »
Il ne répondit pas.
Alors elle, si humble l'instant d'avant, se redressant tout à coup et d'un accent de haineuse raillerie,
« En d'autres termes, reprit-elle, tu viens me demander de me sacrifier, de sacrifier du même coup tous les miens.
Pour toi ? Oui, mais bien plus encore pour Mademoiselle de Chandoré. Et cela te paraît tout simple. Je suis le passé, moi, le rassasiement, le dégoût. Elle est l'avenir, le désir, le rêve. » Et tu trouves tout naturel que la vieille maîtresse fasse litière de son amour et de son honneur à la jeune fiancée. Il t'importe peu que je sois avilie, pourvu qu'elle soit honorée, que je pleure, pourvu qu'elle sourie. Eh bien non! Et c'est de la folie que de venir me prier de te sauver pour te jeter dans les bras d'une autre. C'est de la démence quand, pour t'arracher à Denise, je suis prête à me perdre, pourvu que tu sois à jamais perdue.
« Misérable ! » s'écria Jacques. Elle le regardait en ricanant, et de ses yeux s'irradiait une infernale audace.
« Ne me connais-tu donc pas ? » insista-t-elle. « Va, parle, dénonce. Maître Folga dut te dire comment je sais nier et me défendre. » Ivre de colère, arrivé à ce degré où la raison s'égare, Jacques de Boiscoran marchait la main levée sur Madame de Clodieuse, quand tout à coup
« Ne frappez pas cette femme !» dit une voix.
Jacques et la comtesse se retournèrent et un même cri aigu et terrible, qui dut s'entendre de loin, s'échappa de leur gorge. Dans le cadre de la porte, le comte de Clodieuse se tenait debout, le revolver prêt à faire feu. Il était plus pâle qu'un spectre et la robe de chambre de flanelle blanche qu'il avait jetée sur ses épaules flottait comme un linceul autour de ses membres amaigris. Le premier cri de Madame de Clodieuse était monté jusqu'au lit où il se mourait. Un pressentiment horrible lui avait traversé le cœur. Il s'était levé, et, se traînant et s'accrochant à la rampe, il était venu.
« J'ai tout entendu !» dit-il, foudroyant les coupables d'un regard implacable.
Avec un gémissement sourd, la comtesse s'affaissa sur un fauteuil. Mais Jacques se redressa.
« L'outrage est flagrant, monsieur, dit-il. Vengez-vous. »
Le comte haussa les épaules.
« C'est la cour d'assises qui me vengera, dit-il.
« Dieu juste, me laisseriez-vous condamner pour un crime que je n'ai pas commis ? Ah, ce serait une lâcheté indigne !»
Monsieur de Clodieuse était si faible qu'il en était réduit à s'accoter contre le montant de la porte. « Serait-ce une lâcheté ? Fit-il. « Alors, comment appelez-vous l'acte du misérable qui, bassement, honteusement, vole la femme de notre homme et le charge de ses bâtards ? C'est vrai, vous êtes ni un incendiaire, ni un assassin. Mais quel incendie de ma maison, près de l'effondrement de toutes mes croyances ! Que sont les blessures du corps comparées à cette autre blessure de l'âme que rien ne saurait cicatriser ? À vous la cour d'assises, monsieur. »
Terrifié, Jacques se sentait rouler au fond d'indéfinissables abîmes. « La mort, plutôt » s'écria-t-il. « La mort !» Et, en trouvant ses vêtements, « Mais tirez donc, monsieur, tirez donc ! Le sang vous fait-il peur ? Tirez ! J'ai été l'amant de votre femme, votre plus jeune fille et ma fille. » Le comte, au contraire, abaissa son arme.
« La cour d'assises est plus sûre, » prononça-t-il. « Vous m'avez pris mon honneur, je veux le vôtre. Et, s'il le faut, pour que vous soyez condamné, je dirai, et j'en ferai le serment, que je vous ai reconnu. Vous irez au bagne, monsieur de Boiscoran. »
Il voulut s'avancer, mais ses forces étaient à bout, et il tomba roide, en avant, la face contre terre, les bras en croix. Saisi d'horreur, éperdu, fou, Jacques s'enfuit.